Radio Sainte-Baume, 88.9.
Notre rendez-vous mensuel revient sur Radio Sainte-Baume, de vous à moi. Madame le maire, Christine Lanfranchi d'Orgal, donc maire de Saint-Maximin et présidente de la communauté de communes Sainte-Baume-Aurélien. Donc il est invité aujourd'hui de l'émission de vous à moi, Madame le maire. Elle répondra aux questions de Jean-Marc Gravelat. Notre invité aujourd'hui, Sébastien Bourlin, maire de Pourrières et conseiller départemental. Elle répondra bien sûr aux questions de Jean-Marc sur les grands travaux, le commerce dans la cité de la Basilique, le projet Habitat et l'avenir de l'agriculture dans le territoire. Cette émission est bien sûr en direct et est diffusée en simultané dans la ville de Saint-Maximin en live, jour de marché.
Exactement, mademoiselle Laurence, nous sommes bien en direct à partir de notre studio ici même à Saint-Maximin et nous avons le plaisir d'avoir avec nous, bien sûr, madame Christine Lanfranchi d'Orgal, qui est maire, bien sûr, de Saint-Maximin et bien d'autres fonctions. Mais comme, bien sûr, nous sommes toujours un petit peu dans la modestie, on gardera ce plus important portefeuille, celui d'être maire d'une belle cité. Elle est accompagnée aujourd'hui par M. Sébastien Bourlin, que nous avons eu le plaisir d'avoir il y a quelque temps pour le tourisme et le no-tourisme. Mais aujourd'hui, le thème, c'est les grands projets. Dieu sait s'il y en a. Alors avant de commencer, bien sûr, les thèmes et les grands projets, on va saluer les Marcelins, parce que vous voyez, madame, aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Marcelin. Ah, alors, est-ce que c'est un fromage ou alors est-ce que c'est un prénom prédisposé et prédisposé à faire de la gourmandise? C'était pour cela que j'en parlais, car aujourd'hui, c'est jour de marché. Grand merci. Oh, on va loin, là. Hein, on est allé le chercher loin, n'est-ce pas, Gérard? Donc, aujourd'hui, merci aux commerçants non sédentaires qui font l'animation de cette belle ville. L'heure est temps maintenant avec ce moment. Vous savez, nous avons eu beaucoup, madame maire, nous avons eu beaucoup de déçus. Ça faisait quelque temps que vous nous aviez un peu abandonnés. Et je vois que vous revenez vers nous, cela nous fait vraiment plaisir. Je sais que vous avez beaucoup de travail. Eh bien, madame, nous allons passer un petit peu à ces questions. Après les travaux de la place de la Victoire, vous avez un nouveau projet ambitieux pour changer la physionomie du centre-ville, rénovation de la place Malherbe, et comment se présente ce futur chantier? Du reste, c'est un gros chantier.
Oui, alors tout d'abord, je vais saluer tous les auditeurs de Radio Sainte-Baume. Vous saluez aussi Jean-Marc. C'est avec grand plaisir aussi que je reviens dans votre émission, dans notre émission. Et on va aborder, comme d'habitude, des thèmes très importants et des enjeux importants pour l'avenir de notre belle ville et du territoire communautaire aussi. On élargit déjà le débat. Alors, en ce qui concerne les futurs projets, bien entendu, à Saint-Maximin, on est toujours dans les projets. On réfléchit à l'organisation, à l'aménagement, à la ville, à la façon dont on va y vivre et dont on va en profiter, qu'elle soit la plus harmonieuse possible. Et le prochain chantier que nous allons débuter très prochainement, c'est la rénovation de la place Malherbe. Alors, c'est une place emblématique, un lieu historique, patrimonial, culturel qu'il faut absolument rénover d'une manière satisfaisante, bien entendu, pour tout le monde. Nous avons commencé la concertation en ce qui concerne ces travaux, une concertation qu'on a faite avec les riverains directement impactés.
Ça s'est bien passé ?
Ça s'est très très bien passé. Cette réunion s'est tenue en mairie et étaient invités ce jour-là les riverains et commerçants qui sont directement impactés géographiquement par les travaux, c'est-à-dire tout autour de la place Malherbe. Bien entendu, ce projet est visible sur le site de la ville, il est téléchargeable, tous les Saint-Maximinois peuvent y accéder et envoyer leurs remarques par mail au secrétariat général où un dossier a été ouvert pour que chaque idée, chaque réflexion des Saint-Maximinoises et des Saint-Maximinois soit prise en compte. Bien entendu, ce ne sera pas mon idée ou l'idée de Jean-Marc ou l'idée de Gérard ou l'idée...
Il n'y aura pas de référendum quand même.
Non, mais de tous, de cette fusion de réflexion naîtra bien sûr une idée plus consensuelle du projet, qui est déjà un projet écrit dans son ensemble, hein, puisqu'on préserve l'architecture actuelle de la place Malherbe. On laisse la pénétrante, la RD560, avec des aménagements routiers de qualité, du pavé, un aspect beaucoup plus moderne et en même temps qui va rappeler l'histoire de Saint-Maximin. Ce seront donc des travaux en continuité avec ce qu'on a voulu avec la place de la Victoire. Mmh. Donc élégant, avec un petit rappel au passé, mais surtout avec une touche de modernité, et ça, on y tient.
Et les terrasses commerciales et de restauration seront impactées? Il y aura des problèmes de...
Alors, c'est cela que nous avons travaillé, que nous travaillons toujours, que l'impact sur le monde économique et sur les riverains soit le moins compliqué possible. Donc, on va faire au travers du marché public gérer des contraintes, et ça peut se faire dans l'écriture du cahier des charges, donc une contrainte délai d'exécution qui sera réduite à entre 5 et 6 mois, avec des phasages pour démonter les terrasses, parce que bien entendu, il faudra démonter les terrasses qui sont toutes sur le domaine public.
Voilà.
Et sous ces terrasses, il y a l'accès au réseau,
et au câble.
Puisqu'on ne va pas refaire simplement juste un ravalement léger, mais en fait, on en profite pour refaire tous les réseaux qui sont très anciens.
Est-ce que la fibre doit venir ou doit arriver un de ces jours à Saint-Maximin?
Ça, c'est un autre travail qui est fait sur le territoire communautaire. Je pense qu'on pourra faire une émission et aborder ce sujet.
Non, parce que comme vous pensez de trancher,
oui,
on pensait...
Oui, mais ça, c'est un travail qu'on est en train de faire avec un schéma départemental pour réduire la fracture.
Est-ce que la physionomie, disons, actuelle, et puis la coloration de cette place a été un peu uniformisée, où tout le monde pourra vers la couleur qu'il veut, tout ça? Il y aura une petite uniformité,
alors,
il y aura quelque chose un peu provençal.
Vous savez, quand on fait un marché public, d'abord on prend un architecte, et cet architecte, on lui donne l'idée de ce qu'on désire pour cette place, mais je crois qu'il faut le faire avec humilité. Ce qui a été fait, ce qui a été pensé au niveau de l'aménagement de Saint-Maximin, avec ses visions et ses perspectives de rue et d'avenue, il faut le préserver. C'est quand même l'histoire de la ville, l'architecture de la ville, c'est l'identité de la ville. Donc ça sera forcément respecté.
Et surtout, comme disait M. Bourlin tout à leur antenne, compte tenu que bien sûr les médias et bien sûr les web, tout ça, quand ils viendront filmer les touristes dans notre belle ville, il faudra qu'il y ait de belles images, n'est-ce pas? C'est ça aussi le tourisme, monsieur Bourlin.
C'est exactement ça, je suis persuadé que la qualité d'aménagement accueillera encore plus de visiteurs. Jean-Marc.
Merci, nous allons passer à une autre question aussi.
Je voulais juste dire qu'en ce qui concerne la place Malherbe, donc, nous avons déjà fait une première réunion de concertation, nous avons ouvert un dossier pour que chacun puisse s'exprimer au travers de mails et communiquer avec la mairie, mais je suis à l'écoute de toutes les personnes qui veulent partager avec moi, avec nous, toute l'équipe municipale, ce moment de construction. Vendredi, je reçois d'ailleurs un collectif qui s'est créé, une dame qui a rencontré des Saint-Maximinois, qui a créé un petit collectif et qui m'a demandé un rendez-vous. Donc je reçois aussi ce rendez-vous. Voilà.
D'accord. Et pour les parkings, ça ira? Il y a quelques soucis? Non, il y a pas, tout va bien.
Alors, vous savez, on a fait une étude. Quand j'ai présenté le projet de la place Malherbe, en préambule, nous avons présenté une étude qui a été faite par le FISAC, le Fonds d'intervention pour la dynamisation des centres anciens. Et cette étude a démontré que Saint-Maximin, par rapport aux villes de même strate, avait plus de stationnement que ces villes-là. Donc, la moyenne, c'est environ 1000 places pour un centre-ville comme le nôtre. Nous, on en a 1300. Donc, il faut peut-être mieux communiquer, mieux diriger les gens sur les parking, mais mieux gérer ça. On a commencé, on a bien commencé à gérer le problème avec des parkings en périphérie très très courtes du centre ancien, en mettant de la gratuité, mais une heure tournante, une heure gratuite le matin et une heure gratuite l'après-midi pour en hypercentre pour l'usager. Donc on a commencé à avoir plein de pistes, mais l'offre de parking est liée. C'est juste la gestion à affiner, parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont été prises pendant des décennies, et il y a toute cette inertie à retravailler.
Oui, il n'y a pas que dans votre ville, je tiens à vous dire, que voyageant, je tiens à vous dire, la voiture ventouse est aussi un élément à éviter. Mais aussi, il faut quand même donner un coup de chapeau à votre police municipale aussi, qui a beaucoup de diplomatie, d'élégance, pour mieux donc vivre et mieux donc sillonner votre belle ville de Saint-Maximin, Madame le maire. Je les ai appréciés et je vous en remercie. Le commerce à Saint-Maximin, ben je crois que ça, on en a parlé. Et nous allons passer à cette cité de basilique. La basilique, pour moi aussi, elle a un petit côté un petit peu affectif. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Elle bénéficie bien sûr d'une belle dynamique. La cité de la basilique, le commerce au centre-ville sera-t-il impacté par ce chantier? Et quelles sont les actions prévues pour le futur? Ce village s'agrandit, mais les commerces manquent-ils au centre-ville?
Oui, Et il manque toujours de l'activité commerciale dans un centre-ville, hein, c'est évident. Il faut qu'il y ait un flux de population important. Donc, il faut une identité commerciale, une stratégie commerciale aujourd'hui très pointue pour faire que chaque usager trouve son compte quand il vient dans un centre-ville. On vient dans un centre-ville pas comme quand on va dans un centre commercial excentré où on fait des courses. Ce sont des courses alimentaires, de survie, on va dire. Quand on vient dans un centre ancien, surtout comme le nôtre, avec un patrimoine aussi important, on vient pour les commerces et aussi pour l'ambiance. Alors, on a de la chance à Saint-Maximin parce que dans notre centre-ville, il y a beaucoup de gaieté, les commerçants sont très chaleureux. D'ailleurs, une enquête l'a démontré, hein. Il y a un très, très bon accueil. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il n'y ait plus de magasins fermés, qu'il y ait une stratégie commerciale au niveau des acteurs économiques.
Et les horaires.
Oui, ben ça, les horaires, c'est un choix de privé, même si c'est le monde économique. On ne peut pas s'ingérer dans la vie privée des gens. C'est compliqué de dire aux gens « ouvrez sur une fourchette aussi large ». Après, ça peut faire partie d'un groupe de réflexion de travail au sein de l'association des commerçants qui, justement, développerait une vraie stratégie, qu'elle soit au niveau des horaires, au niveau de la structure des magasins qui s'ouvrent à l'intérieur de l'hypercentre. Tout ça, ça doit se faire avec une notion de communication et de partage. C'est très important.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'un style de commerce un peu équitable ou alors un style de petite halle ou de commerce, des fois quand il y a des zones un peu libres, des magasins un peu libres, un commerce style du producteur au consommateur direct ou quand même vous avez une zone agricole très dynamique, est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir ça carrément au centre-ville ? Un truc un peu qui soit un petit peu en avant-garde, quoi.
Alors, pour ce qui est de l'alimentaire, c'est vrai qu'en centre-ville, il manquerait surtout une épicerie fine, par exemple, et il manque actuellement, cruellement, d'une petite supérette. Donc là, ça va être réglé avec les travaux du bâtiment qu'on appelle les Chauguettes, où il y aura un casino qui sera entièrement refait. Donc ça, c'est important de garder l'alimentaire en centre-ville, c'est même vital, hein. Après, on peut varier sur les thèmes épicerie fine. En ce qui concerne le monde agricole, pour faire des circuits courts, puisque c'est ce que vous évoquez, pour faire du local, je crois qu'une coopérative est plus à même de réfléchir à ce mode de fonctionnement et de vente. Et c'est un projet qui est en cours, mais ça, sur le territoire communautaire.
Ah, d'accord. Sans le vouloir, j'ai anticipé. Je vous prie en prie de m'excuser, Chandra. Eh bien, quel grand moment aussi de rappeler que vous avez... Oui, mais ma chère Laurence, on se croirait presque à la manif ici. Alors, il faut le dire quand même à nos auditeurs, elle a un panneau. Je t'aime, Jean-Marc. Non, c'est pas je t'aime, Jean-Marc. Appel, bien sûr, de Nathalie Goulu, qui est la présidente des commerçants du centre-ville. Donc, nous l'avons appelée. Et puis, tiens, on peut l'appeler au 06 19 99 89 40. On ne sait jamais si vous avez quelques idées à lui donner à Nathalie, il n'y a pas de souci. Bonjour Madame Goulu, le centre-ville est vivant, les commerçants sont actifs, les rencontres organisées et puis bien sûr l'association des commerçants est aussi en pointe pour dynamiser notre ville, Madame la Présidente.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Nathalie.
Alors, oui. Bonjour Christine. Donc oui, voilà, ben, effectivement, nous avons beaucoup de commerce et nous essayons effectivement tous dans notre centre-ville d'être dynamiques. Donc si vous voulez que je vous parle un peu des commerces sur Saint-Maximin, ce qui s'est passé, donc nous avons vu arriver une dizaine de nouveaux commerces dans le centre-ville donc depuis fin 2015, début 2016, ce qui n'est quand même pas mal. Le centre-ville de Saint-Maximin plaît énormément à ces personnes qui choisissent de s'y installer et de s'y implanter. Alors nous avons... beaucoup de choix, hein, parce qu'il faut quand même venir voir. Nous avons énormément de choix, que ce soit dans les vêtements, dans les chaussures. Nous avons du choix avec des marques, avec des vêtements un peu plus abordables pour certaines personnes. Donc nous avons des boutiques qui se sont spécialisées, qui sont très très belles. Nous avons, admettons, la boutique de Locosmeto Aveiro, qui fait des produits de beauté de la mer morte. Nous avons quelqu'un aussi qui est venu s'implanter, donc il y a un commerce qui s'appelle Une Pincée de Celte, avec des superbes whisky, des boutiques, donc des produits celtes qui sont vraiment sympathiques. Nous avons donc d'autres boutiques de chaussures, de cuir. Nous avons vraiment des très jolies boutiques qui se sont implantées au centre-ville. Ça prouve quand même que les gens viennent chez nous, viennent sur Saint-Maximin, parce qu'ils savent qu'il y a un certain potentiel. Alors, le potentiel, ben, effectivement, nous avons toute la clientèle du centre-ville, parce que les gens qui habitent en centre-ville, ben, viennent beaucoup chez nous. Et ça, c'est quand même très important de le dire. Les gens qui habitent un peu sur les extérieurs viennent aussi. Le but du jeu, bien sûr, c'est de continuer à faire venir tous ces clients qui habitent un peu à l'extérieur, pour qu'ils voient que Saint-Maximin, ça n'est pas juste une ville dortoir, c'est une ville où on vit énormément.
Bien sûr, présidente.
Voilà.
Oui, alors, mais présidente, j'avais taquiné tout à l'heure Madame le maire, bien sûr, notre premier magistrat, sur le fait quand même qu'il y a des problèmes un petit peu d'horaire dans vos commerces, parce que, bien sûr, on ne peut pas être sur 12-14 heures par jour dans le commerce, mais souvent les touristes sont un petit peu désorientés, car vers 1h30, 2h, la ville est morte, quoi.
Alors, vers 1h30, 2h, on n'a pas beaucoup de touristes quand même qui sont dans le centre-ville, quoique ça puisse arriver.
Mais j'y suis déjà.
J'ai vu le matin des bus de touristes à 8h30 du matin. Ça, je trouve que c'est vrai que c'est un peu tôt, c'est dommage pour nous les commerçants. Enfin, pas pour tous, parce qu'il y a quand même pas mal de commerces qui sont ouverts. Hein, mais bon, après, c'est vrai que les boutiques de vêtements, etc., c'est sûr qu'à 8h du matin, ils n'ont peut-être pas forcément intérêt à être là. Donc, ils viennent plus tard. Là, on est en train justement d'en rediscuter tous ensemble. On essaye d'harmoniser les horaires pour qu'effectivement, quand les gens viennent en centre-ville, puissent nous voir tout le monde et que les magasins soient ouverts.
Merci. Il y a aussi des zones commerciales à Saint-Maximin qui se développent et qui développent un autre type de commerce. Comment se passe cette cohabitation avec le centre-ville? Un petit peu, donc, c'est une question un peu pour vous, présidente, et puis je la reposerai, bien sûr, avec délicatesse à Mme le maire.
Alors, moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Que, ma foi, il n'y a pas de souci avec les zones. Je pense que les zones telles que la Louve ou que la zone du Hyper-U, Cap-Sainte-Baume, parce que, bon, tout ce qui est route d'Aix, c'est quand même pas... On n'est pas sur les mêmes commerces, donc c'est différent. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Cap-Sainte-Baume et ce qui concerne donc la Louve, je pense que les gens qui viennent... Moi, je vous prends un exemple. J'ai ma famille qui habite à Tourbe. Donc, quand ils viennent chez Kiabi, pour ne pas le citer, ils vont quand même venir en centre-ville. Donc je pense que les zones permettent aussi, on a la chance que les zones sont très proches du centre. On n'est pas à 10 km, quoi. La zone de Saint-Maximin, elle est à pied, elle est dans le centre, quoi.
Par contre, madame, est-ce que vous ne pensez pas qu'il manque un petit peu de fléchage signalétique qui annonce vos commerces à l'intérieur du centre-ville?
Alors, le fléchage signalétique qui annonce les commerces en centre-ville, le fléchage signalétique est pratiquement terminé. Je crois que donc, si je ne vous dis pas de bêtises, ça faut voir avec Madame le maire, je pense que Christine vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, c'est que le fléchage extérieur doit être fini si je ne vous dis pas de bêtises. Hein, donc, mais ça, il faut voir avec Madame le maire, c'est surtout elle que ça concerne. Voilà, hein, donc ça doit être fait, nous on attend, mais elle pourra sûrement vous l'expliquer plus que moi. En tous les cas, ce qui va manquer en centre-ville, nous, pour l'instant, c'est une supérette, parce que les gens d'un certain âge, voilà, donc ben, ils ont du mal à aller faire les courses un peu trop loin, quoi, ils n'ont pas de véhicule.
Oui, de la proximité. Oui,
c'est le commerce qui nous manque cruellement, c'est celui-ci.
Mais voilà. Ne vous en faites pas, Madame la Présidente. Madame le maire avait parlé il y a quelques minutes, je pensais que vous étiez à l'antenne pour l'entendre, donc elle nous a déjà certifié qu'il y a des accords.
Oui, pour les échauguettes, on l'attend. On d'accord. L'attend avec impatience en tous les cas.
Merci, Madame la Présidente. En attendant, bien écoutez, je vous remercie de votre dynamisme et je pense que tous les commerçants qui votent pour vous sont heureux que vous soyez une très belle représentante du commerce du centre-ville.
Est-ce qu'on peut vous parler juste des animations qui vont arriver vite fait, là, quand
rapidement, autrement, je suis obligé de vous envoyer la facture.
Voilà. Alors, le 7 mai, donc, nous faisons... un défilé de mode qui va commencer à 17h30 sur le parvis de la basilique, qui va être suivi d'un apéritif avec les caves de Saint-Maximin.
Ah,
donc ça, c'est le 7 mai.
7 mai, je le note parce que certainement que c'est moi qui vais l'animer.
Voilà,
c'est pour ça.
Avec des jeux tout l'après-midi et donc et le soir, donc un petit apéritif. Et le samedi 9 juillet, il va y avoir un concert de gospel sur la place Malherbe. Voilà,
très
donc
bien.
Deux activités qui vont arriver incessamment sous peu, nos animations.
Par contre, vous me parlez de musique et tout. Est-ce que vous une question tout à fait personnelle. Est-ce que vous avez eu une idée interactive entre les programmes de la Croisée des Arts et vos commerces? Parce que ce serait pas mal
forcément,
quand même de dynamiser la Croisée des Arts à travers des flyers ou pourquoi pas donc faire des réductions de prix. Par exemple, pour tout achat de X, on a une place gratuite. gratuite.
Exactement.
Surtout que Laurence est là pour son spectacle.
Bien sûr.
Qu'en pensez-vous, mademoiselle la présidente?
Ben, madame la présidente va vous dire qu'elle achète des places de cinéma, donc effectivement, pour permettre justement à nos clients de gagner des places de cinéma. Donc quand vous faites gagner une place de cinéma forcément à une maman ou à un papa, ben, il va payer et il va acheter les places pour les autres. Donc ça oui, on essaye de travailler effectivement tous ensemble.
Voilà ce qui est très important dans la communication. Je vous remercie, présidente. On se retrouvera dans quelques jours, j'espère, en direct live pour pourquoi pas un petit café. En attendant, Merci.
Au revoir, madame Goulu.
Au revoir.
Jean-Marc, on va faire une petite pause musicale.
Faites, musiquez.
Merci beaucoup. À tout de suite. Flash à l'instant, c'était à minuit sur Radio Saint-Baume.
Radio Saint-Baume.
Nous reprenons le cours de notre émission de vous à moi, Madame le maire Jean-Marc.
Ben oui, ma chère Laurence, nous sommes là. Oui. Et nous reprenons, bien sûr, un petit peu sur le thème des zones commerciales. Mais là, Madame le maire va nous parler un petit peu de cette cohabitation. Elle en a l'habitude et surtout, elle a l'art et la manière donc, de gérer tout ceci.
Alors moi je suis pour la mixité, quelle qu'elle soit. Merci. Et la mixité économique, c'est un très très bon vecteur pour un très très bon vecteur de développement. Alors comme l'a souligné la présidente Nathalie Goulu, la présidente de l'Association des commerçants, Et l'atout de Saint-Maximin, c'est que ces zones commerciales sont directement liées par des liaisons piétonnes au centre-ville. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de no man's land entre une zone commerciale et le centre-ville, parce que ça crée des villes à l'intérieur de la ville ou à l'extérieur. Et ça fait ce sont des zones qui vivent en isolement. Ici, à Saint-Maximin, ça n'existe pas. Comme elle l'a souligné, on peut aller de Cap-Sainte-Baume ou de la zone du parc d'activité de la Lauve à pied dans le centre-ville. C'est un point très très important. Et en même temps, ça crée un flux important d'usagers, de personnes qui vont aller de l'un à l'autre et qui vont apprécier pour ce qu'elles sont ou le centre ancien ou le parc d'activité à caractère commercial. Et ça crée un choix. Il faut du choix. C'est ça qui attire le monde. Si vous faites que des parcs d'activité qui sont très éloignés du centre-ville, vous créez un lieu isolé où les gens viendront, ils n'auront pas le choix, ils resteront là, ils poseront leur voiture, ils ne pourront rien faire d'autre à moins de récupérer leur véhicule et d'aller ailleurs. Donc ça va couper la dynamique. Si vous créez des lieux de vie qui sont directement corrélés au cœur historique, là, vous créez un véritable flux qui est intéressant économiquement.
Est-ce que, on va parler un petit peu, est-ce que la décoration du centre-ville par les commerçants est à la hauteur de l'attente des touristes ? Est-ce que dans certaines villes, on travaille un peu plus une décoration traditionnelle ? Est-ce qu'il n'y a pas d'abus d'enseigne un peu trop moderne, on va dire, et tout ? Est-ce que le touriste se retrouve dans un patrimoine de pierre, de sensibilité dans le centre-ville, madame ?
Alors, il y a décoration et architecture et travaux. Donc, la décoration, l'association des commerçants décore très bien ses boutiques, il n'y a aucun souci là-dessus. En ce qui concerne l'architecture des façades, on est en milieu très contraint. Le centre ancien s'est développé, mais est resté sur peut-être des enseignes qui ne sont pas terribles visuellement ou il n'y a pas d'harmonie aujourd'hui qui se traduit dans les rues commerçantes. Mais ça, l'association en est très consciente. Elle travaille activement avec le chargé de mission du FISAC qui les aide à rénover, à faire de l'accessibilité, à vendre leur commerce de façon beaucoup plus attractive. Mais le problème des centres anciens, c'est que les surfaces sont très petites.
Très petites, oui.
Voilà.
Nous connaissons.
Il faut réfléchir à justement pouvoir agrandir les surfaces, que ce soit peut-être en créant un droit de préemption commercial au niveau de la collectivité, ou essayer de remembrer complètement certains immeubles pour pouvoir offrir un espace un peu plus grand.
Je vous remercie, Mme Marne. Nous allons passer un petit peu à ce projet Habitat avec la communauté des communes. Donc, Mme le maire, avec bien sûr Sébastien Bourlin, qui nous fait le plaisir d'être à côté de vous, vous êtes des élus communautaires et à ce titre, vous avez une politique ambitieuse pour l'habitat, la préservation du patrimoine. Quel est votre projet ? Disons que nous avons un petit peu anticipé, mais là, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention, comme le font bien sûr tous les auditrices et auditeurs de Radio Sainte-Baume.
Oui, nous avons une politique ambitieuse ou tout au moins respectueuse de ce que peut attendre un usager, un administré de ses élus, la mission de service public. L'habitat aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, pas seulement au niveau du territoire communautaire, mais au niveau national. Hein. Il faut absolument arriver à réguler les loyers aujourd'hui sur tous les territoires, notamment chez nous, où nous sommes très, très, très attractifs. Il y a une étude qui a été faite qui s'appelle VAR 2030 et qui est une prospective concernant les migrations de population. Et nos territoires, Bassin de Provence Verte et même au Var, seront fortement impactés. C'est à nous, élus, aujourd'hui, d'anticiper cette migration de population en proposant du logement et en faisant une politique de l'habitat qui n'oublie personne, mais qui permette à tous d'accéder à des logements plus que convenables. C'est quand même un droit auquel tout le monde doit accéder. Alors, en ce qui concerne cette politique de l'habitat, j'ai la chance d'avoir un vice-président à la communauté de communes, Sébastien Bourlin, qui est aussi conseiller départemental et qui a été très actif depuis la création de cette communauté commune en ce qui concerne l'habitat. Donc il a proposé chaque fois des politiques invasives et en même temps il a su s'entourer en signant des dispositifs avec des partenaires institutionnels tels que l'État, la région et le département pour avoir toutes les aides logistiques, financières, juridiques et administratives possibles pour faire avancer notre territoire. Mais là je vais lui laisser la parole parce qu'il est très pointu sur le sujet.
Merci. Monsieur Bourlin, nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt.
Ben, merci Jean-Marc et merci déjà Christine pour les aimables mots que tu as eus à mon égard. Vrai. De toute façon, si je peux donc dans ce domaine de compétences exercer, c'est parce que tu me fais confiance et parce que tu m'accompagnes. Donc forcément, c'est notre complémentarité qui sert le dispositif. Alors Jean-Marc, en fait, tout part d'un principe chez nous, c'est qu'on souhaite mieux vivre et travailler au pays. Donc mieux vivre, ça veut dire pouvoir y travailler et habiter au pays. Bon, ça, donc l'économie en a parlé, donc l'habitat, Christine donc, l'a introduit. Et dans le cadre des dispositifs, il y en a deux en particulier qu'il faudrait citer. Dans les centres anciens, on a mis en place ce qu'on appelle le programme donc, d'intérêt général. Le programme d'intérêt général a pour objet de réhabiliter donc, les centres anciens avec trois thématiques auxquelles on souhaite répondre. D'abord, lutter contre la précarité énergétique, puisque ça fait de lourdes consommation donc pour les foyers les plus modestes, éradiquer l'habitat indigne, et on en a donc dans chacun de nos noyaux anciens de chacune de nos communes, et enfin le maintien donc à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées. Et à travers ce programme d'intérêt général qui regroupe donc beaucoup de partenaires, donc le département, la région, l'agence régionale de santé et l'État à travers ce qu'on appelle l'ANA, donc on aide financièrement pour ces réhabilitations et ces rénovations. Donc ça, c'est le premier outil donc, qu'on a mis en place et qui fonctionne depuis des années et qui est aujourd'hui, je me permets de le dire, extrêmement renforcé depuis la nouvelle convention. Sachant que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'intérêt général, on s'est donc aperçu, et Christine donc, qui est très sensible, qu'il était donc nécessaire, en dehors donc, d'aider à rénover l'habitat, donc, d'aménager donc, nos centres anciens, parce que la problématique habitat est également donc, liée à tout ce qui permet donc, les aménagements urbains, commerce et patrimoine. Et donc on rejoint en fait, oui, dans ce cadre-là, la dynamique en fait, que Christine est en train d'instaurer donc, à vitesse grand V dans le centre ancien de Saint-Maximin. Donc allier commerce, aménagement urbain et en l'occurrence habitat. Et dans ce dispositif-là, donc on est en train de réaliser une étude préopérationnelle sur deux communes pour l'instant qui sont la mienne, la commune de Poyan, mais surtout celle de Saint-Maximin pour le cœur de ville, pour justement faire en sorte qu'il y ait toute cette complémentarité et que financièrement on puisse donc accompagner. Mais ça, c'est le premier outil. Premier outil, donc c'est dans l'habitat qui existe. Mais également, il nous faut donc aider les opérateurs donc, sociaux.
J'allais vous en parler parce que c'est un petit peu le dada de parisien. Il faut que les villes aient des bâtiments sociaux et des éléments de l'habitation sociale. Ils s'en foutent si vous avez de l'argent ou pas, ou si vous avez des terrains. Là. C'est ça aussi un petit peu le problème, parce que Paris, il est toujours joli. On veut toujours tout commander, mais vous le savez, c'est du reste, on le voit sur la politique nationale. Et maintenant, il y a vraiment un désaccord parisien et province, même dans toutes les régions. On commence à en avoir marre de l'autoritarisme parisien. C'est facile de dire « il faut faire » et on n'aide personne. Alors je vous écoute.
Non, en ce qui nous concerne, on a pris notre destin en main. On n'attend pas que Paris nous dicte en fait des choses. On le fait nous-mêmes. Et on n'a rien en fait d'apprendre de leur part. Seulement nous laisser faire.
Oui, mais c'est les médias qui en parlent. C'est pour ça que essaye, nous, en tant que médias locaux, de remettre, bien sûr, la vérité dans la vérité. Et vous êtes là pour le faire.
Alors je vous remercie. La pertinence du média local est souvent supérieure au média national. Dans le cadre de la politique habitat, donc le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle le PLH. C'est accompagner les opérateurs sociaux pour qu'ils viennent construire chez nous. Et donc, à travers la mise en place en fait, d'aide par logement aux opérateurs sociaux, on leur permet donc de venir chez nous et de pouvoir donc y construire donc des logements. Donc, on aide financièrement l'opérateur social pour qu'il puisse donc s'installer sur notre territoire. On a également une politique foncière qui existe à travers ce qu'on appelle l'établissement public foncier régional, qui nous permet d'acquérir du foncier, donc à un prix maîtrisé, et de pouvoir donc ainsi mener l'opération. Un bailleur social, une aide financière qui doit lui être apportée, et un foncier qu'on essaye de mobiliser. Donc Jean-Marc, dans ce cadre-là, donc, on a également donc, cet outil. Et juste vous dire simplement que dans le cadre du budget que présentera notre présidente, donc en l'occurrence demain
soir,
vous pourrez donc vous apercevoir et lire que le budget permettra donc de mobiliser et de garantir donc des crédits pour une centaine de logements en cours ou à créer dans le cadre du plan local de l'habitat. Mais si vous me permettez, Jean-Marc, vous qui nous coupez souvent, je vais me permettre de vous couper aussi. Mais je sais que vous allez me rendre l'appareil, je ne suis pas inquiet. Je voulais simplement vous dire également qu'à côté donc, du PLH, le PLH n'a pas pour objet seulement de construire des logements locatifs. Il a également pour objet de permettre donc, à des jeunes actifs de pouvoir accéder à la propriété. Le dispositif d'État permet un prêt à taux zéro sur une valeur de 20 000 euros. En l'occurrence, donc, nous avons doublé la mise à la communauté en ayant nous-mêmes pris en charge les intérêts pour 20 000 euros supplémentaires.
40 000 euros.
C'est exactement ça.
Eh bien, maintenant, on va parler d'un petit chiffre. Je me suis laissé dire que la commune Saint-Maximin était à peu près à 17 18 000 habitants. Combien ?
Alors, les chiffres officiels ne sont pas tout à fait aussi importants. Hein. Non, c'est 15 600, mais je pense qu'on est
Alors,
bien au-delà.
Votre objectif pour 2020, vous arrivez à combien ? 20 000 ?
Alors, je vais le faire comme d'habitude, parler avec beaucoup d'humilité. Je ne suis pas médium. Mais par contre, en tant qu'élu, j'ai des outils pour gérer l'accroissement démographique. Et ces outils, ils existent au travers du PLU, ils existent en matière d'habitants, en politique foncière, en maîtrise foncière. Et ces outils-là, on va les utiliser. Donc, un objectif, c'est toujours de maîtriser sa croissance démographique afin que le structurant qui existe sur une collectivité ne soit pas complètement dépassé. Voilà. Donc, on va essayer de maintenir cet équilibre entre structurant et démographie.
Alors, nous sommes passé un petit peu dans la ville avec Gérard, là, on s'est promené, puis nous avons eu dans le micro-trottoir quelques questions. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce que le PIG, qu'est-ce que le OPAH, et qu'est-ce qu'il y a derrière ces deux cycles, et puis qu'en est-il du traitement des déchets ? Parce que si on a beaucoup, 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 beaucoup d'habitants et tout, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Alors voilà, deux questions en l'une. Ah, c'est peut-être M. Bourlin qui va prendre...
Alors, pour ce qui est du PIG et de l'OPA, Sébastien vient de l'expliquer. Donc, le programme d'intérêt général pour l'habitat et l'opération programmée d'aménagement. Donc, il l'a dit, c'est surtout pour favoriser l'accession et la location au logement pour tous et dignement, avec beaucoup de respect. Donc, nous sommes partenaires. J'ai la chance d'avoir dans mon équipe communautaire des élus qui sont très très actifs et qui sont très ambitieux pour le territoire. Pour les ordures ménagères, évidemment que le traitement des déchets aujourd'hui, c'est un enjeu. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, on a laissé s'installer des mauvaises pratiques pendant des années et des années. Ce n'est pas un jugement, c'est les circonstances qui ont fait qu'aujourd'hui, on en arrive à cela. Il y a une prise de conscience importante au travers des Grenelles, etc., au travers des gouvernements successifs, que notre planète est en train de s'empoisonner, que nos déchets sont exponentiels, mais il faut trouver des solutions. Ces solutions, elles existent, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais il va falloir réfléchir à ne plus enfouir, par exemple, nos déchets, pourrir notre planète. Et j'ai la chance d'avoir un vice-président en charge des déchets à communauté de communes qui s'appelle Sébastien Bourlin, et à qui je vais renvoyer la balle pour répondre.
C'est le Roland Garros ce soir.
C'est Roland Garros.
Mais on est vraiment très complémentaires à la communauté de communes, chacun dans sa partie.
Alors, s'agissant du traitement des déchets, donc Christine, vous le disiez, on a donc une problématique à régler donc à court terme. C'est que vous avez le centre d'enfouissement des déchets ultimes du Canet des Morts, qu'on appelle le Balançant, qui va fermer. Oui, de manière définitive. Donc, dans ce cadre-là, il fallait que l'ensemble de l'Ouest VAR se structure pour trouver donc, une solution pour les déchets ultimes. Et à travers des discussions entre le CIVET, donc, en gros, qui couvre le périmètre du comté de Provence, donc nos communautés donc, voisines, la communauté de cœur du VAR, donc Canet des Morts, le Luc, et toute la partie au VAR, donc Verdon, qui est regroupée en syndicat, on a donc décidé de travailler sur donc la faisabilité d'une unité en fait de traitement des déchets qui a un double objectif. Faire en sorte que 80% de nos déchets ne soient plus donc enfouis ou incinérés. Et donc en enfouir que 20%. Et pour cela, nous rapprocher de nos collègues du Var qui disposent à aujourd'hui d'un centre d'enfouissement ultime des déchets, donc un ISDN sur la commune de Génasservi, et faire en sorte qu'on soit tous ensemble pour régler nos déchets. On travaille ensemble sur ce dossier pour faire en sorte qu'il aboutisse avant nos échéances prochaines municipales, mais c'est des procédures extrêmement longues, et donc on a pris notre destin en main. Ça, c'est la partie donc déchets ultimes. Mais dans le cadre... Christine, si tu veux intervenir.
Alors, le double objectif, il est aussi environnemental. Dans la mesure, on va pouvoir transformer ces déchets en énergie. Donc ça, Sébastien est beaucoup plus pointu que moi pour l'expliquer. Je lui redonne la parole.
Oui, mais juste avant, est-ce qu'il n'y aurait pas une idée d'association pour faire du recyclage et tout? C'est peut-être...
Tout ça, ça existe. On l'a...
Mais vous l'avez vous allez développer un peu plus?
Oui, on l'avait développé dans des émissions précédentes. Ça, c'est donc...
Il y aura peut-être un peu de budget pour les aider, quelque chose là, ce genre de chose,
ça, même, ça se fait déjà, Jean-Marc. Ouais. Donc, juste vous dire que dans le cadre, en fait, de poser cette question, dans le cadre, en fait, de recycler davantage et de valoriser davantage, donc il y a quand même un projet cette année qui est quand même phare pour nous à la communauté de communes, c'est que vous avez donc sur la commune de Saint-Maximin aujourd'hui, donc uniquement une collecte des emballages ménagers pour l'habitat diffus qui se fait à travers ce qu'on appelle les points d'apport volontaires.
Oui.
Notre politique, et si notre budget est adopté donc demain, ce dont je ne doute pas par ailleurs, c'est de doter donc l'ensemble de l'habitat diffus de la commune de Saint-Maximin de bacs individuels de 240 litres qui permettront donc à tous ses habitants de pouvoir donc à leur domicile donc trier les emballages. Et donc on participe à justement la question que vous me posez. Donc sachez quand même que ces 4000 bacs qui vont être distribués
et, qui vont et ramassés,
ça va coûter cher. Mais néanmoins, sachez qu'on a des retours ensuite de nos partenaires en fait recycleurs qui viennent en fait justement nous rembourser donc une partie du coût parce que justement on est en fait vertueux.
Ça
donc 4000 bacs.
Ça augmentera le taux de tri sélectif qui aujourd'hui stagne par rapport aux bacs d'apport volontaire. On est arrivé au bout du dispositif. On a un habitat très diffus comme Sébastien l'a souligné. Donc les gens doivent se déplacer pour aller aux bacs d'apport volontaire. Les abords des bacs sont souvent vandalisés, salis, donc sans aucun sens civique. Pour lutter contre ça, on pense que l'apport, le tri directement chez l'usager est une meilleure solution,
action,
surtout quand il y a de l'habitat diffus.
Action sur les enfants, peut-être à l'école, pour redynamiser un peu
aussi.
Le mouvement. Parce que souvent, c'est l'enfant qui conseille les parents. Hein, on l'a vu dans les sécurités routières.
Je remarque, depuis de nombreuses années, on organise avec les écoles élémentaires, donc en particulier ce qu'on appelle les cycles 3 sur notre périmètre communautaire, donc une action annuelle avec un rendu donc qui se fait toujours donc au mois de juin avec près de 1000 enfants qui viennent justement et qu'on travaillait toute l'année sur donc trier les déchets et justement comme vous disiez ils sont les meilleurs vecteurs pour leurs parents pour inciter et sachez que ça se fait en collaboration avec l'éducation nationale. Et surtout, ça me permet de saluer également le travail de nos ambassadeurs de tri de la communauté.
Voilà, c'est toujours important de un petit peu le rappeler, un petit rappel, c'est compte. Du reste, on a maintenant Madame le maire qui va nous faire un petit rappel.
Un petit rappel musical ?
Voilà. Allez-y, on va faire retourner la musique. Et là, Laurence, elle
a... J'avais choisi un deuxième morceau.
Oui.
On vous laisse le présenter,
Christine. No money, no love, ça veut dire pas d'argent, pas d'amour, mais de l'ambition, de l'espoir et tout le reste.
Ouais. Et du soleil de Saint-Maximin.
David Guetta, tout de suite.
Yeah.
No Money, No Love, c'était David Guetta en duo avec Chotek. C'est un choix de Christine Lanfranchi d'Orgal, maire de Saint-Maximin. Notre émission de vous à moi, Madame le maire, il est midi.
Il est midi, on aura,
bon appétit.
On ne met pas d'informations, non, on laisse couler comme ça.
On laisse couler.
Oh là là. Et alors, en même temps, à l'apéritif, on a Sébastien Bourlin, n'est-ce pas?
Exactement, Jean-Marc.
Avec deux glaçons, bien sûr, qui font teinter l'anis étoilé. Pour l'heure, eh bien, nous allons revenir un petit peu, comme on parlait d'anis étoilé, vous le savez, c'est l'agriculture.
Oui, bien sûr.
Ah, voilà. Alors, vous avez vu ce printemps merveilleux à Saint-Maximin.
Qui commence très bien,
quand je me promène dans cette Provence verte, encore il y a quelques jours, j'étais vraiment sous le charme, et je le serai toujours, donc, surtout en venant vers vous. L'avenir de l'agriculture dans un territoire, mais c'est magnifique ça. Madame le maire, je reviens vers vous. L'agriculture est un enjeu majeur pour le territoire. Alors là, encore des lettres, encore des logos. CCSMA, c'est aussi la gestion de l'environnement, l'enjeu économique. Moi, je crois quand même que ça doit être aussi un grand plan d'action dans ce secteur, madame.
Oui, vous l'avez dit, hein, vous m'avez coupé le
Je ne me permettrai pas, madame.
Oui, bien sûr que c'est un enjeu, l'agriculture. C'est un enjeu historique, c'est un enjeu... non, ça ne devrait même pas l'être dans un territoire, un bassin comme le nôtre, qui est un bassin rural, agricole, qui a ses lettres de noblesse depuis fort longtemps. Alors, si la communauté de communes Sainte-Bombe-Montrélien, c'est le sigle, hein, CCSBMA.
D'accord, madame.
Communauté de communes Sainte-Bombe-Montrélien a pris à bras le corps ce travail. Et j'en profite pour saluer la vice-présidente en charge de la commission à agriculture avec tous ses élus qui ont fait un travail formidable qui a été consacré hier par la signature triennale, une convention triennale entre la SAFER, la Chambre d'agriculture et la communauté de communes pour pouvoir justement activer tous les outils au développement agricole et en faire un fleuron sur le territoire. Mais je ne vais pas m'étendre parce que j'aimerais qu'on fasse un focus lors d'une nouvelle émission de radio, si vous me
très
permettez,
volontiers, Jean-Marc,
et qu'on invite Michel Henry pour qu'on parle ensemble d'agriculture sur le territoire.
Écoutez, il n'y a pas de souci, surtout que, bien sûr, on a toujours plaisir à voir le travail de ces agriculteurs et surtout le résultat, qu'il soit aussi bien en bons produits que aussi en entretien du paysage, parce qu'aussi, il ne faut pas l'oublier, et... Bien sûr, s'il n'y a plus d'agriculture, eh bien, nous avons donc un territoire dévasté.
Et je vais ajouter qu'on a aussi un partenaire très, très important, c'est le lycée agricole Provence Verte.
Ah, Monsieur Breyer.
Monsieur Breyer.
Un homme formidable,
oui,
Monsieur Breyer.
Toujours un projet d'avance, et je le taquine tout le temps, hein, chaque fois que je le vois, et qui est partenaire avec nous, bien évidemment, avec tout le vivier de jeunes agriculteurs qui va sortir de son école d'excellence.
Et grâce, bien sûr, à cette école, il y aura beaucoup moins de chômeurs dans la région, et ce n'est pas encore les Parisiens qui nous l'auront appris.
Et est-ce qu'ils savent qu'il y a un monde rural autour d'eux qui fait partie de 80% de la France ?
Voilà. Et il faut quand même rappeler que même avec le high-tech, eh bien, on fait aussi de la bonne agriculture. Du reste, on l'a vu au Salon de l'agriculture dernièrement, où la haute technologie était à l'aide et bien sûr au service de l'agriculture. Mais la main est toujours aussi bonne et la crémaillère aussi pour couper. L'heure étant maintenant, eh bien, il faut le dire, nous allons suspendre quelques instants ces grands mots, dire qu'un jour M. Breyer va être encore un de nos invités. Quel plaisir, oh, quelle joie. Peut-être qu'il faudrait même faire l'émission en direct du lycée, peut-être un jour.
Ça serait une excellente idée.
Parce que je verrai, pourquoi pas, donc, ce pôle d'agriculture, ces ateliers, tout ça, ce serait merveilleux. Mon cher Gérard, préparez tout ceci.
Ce sera très bucolique.
Mettez un autobus et vous nous mettez un petit budget quand même, hein, pour désaltérer la glotte. Eh bien, en parlant de budget, c'était pour le budget, madame. Le budget qui va être soumis au prochain conseil municipal le 12 avril. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Le budget qui va être approuvé ce jour-là... Et dans l'esprit de tous les autres, raisonné, ambitieux, avec une politique des taux communaux qui n'augmente plus depuis 13 ans. Donc,
ce qui doit déplaire vraiment à l'opposition, là, parce que comme on dit...
Ça doit leur plaire, ils sont Saint-Maximinois.
Ah, voilà
ils doivent en raffoler,
ah,
même.
Ça
leur plaît beaucoup.
D'accord, donc vous recevez des félicitations de l'opposition, c'est bien.
Oui.
C'est une bonne chose.
Ou si je ne reçois pas de félicitations, bien, je m'en félicite moi-même.
et nous associons.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
On s'associe.
Donc voilà, c'est toujours une continuité dans les travaux, toujours essayer de maintenir les charges de fonctionnement.
Est-ce qu'il y a quelques chiffres, madame ?
Alors des chiffres là tout de suite, oui, il y en a, je les ai en tête, heureusement. Alors c'est un budget qui fait 23 millions d'euros, avec un fonctionnement de 16 millions d'euros et un montant d'investissement de 6 millions d'euros.
C'est quand même important.
Mais le montant d'investissement ne veut pas dire grand-chose parce que quand on lance des travaux, ce ne sont pas des travaux qui vont peut-être se réaliser sur un exercice complet. Ça peut être pluriannuel, donc il y a des restes à réaliser qui font que les montants sont fluctuants.
Alors, ce qui veut dire que l'État vous donne de plus en plus d'argent ?
Non, l'État ne nous donne pas d'argent, tout le monde sait ça. L'État ne nous donne plus d'argent.
Alors, en 2014, il vous donnait...
Ben, il nous enlève 113 000 euros en 2000... Non, il nous enlève 280 000 euros. Donc, en 2015, il nous avait déjà enlevé. En 2014 aussi. Mais ça va continuer. Hein, c'est pour combler le déficit de l'État. Et jusqu'aux dernières nouvelles, je n'ai pas cru comprendre que ce déficit allait être comblé par les Parisiens. Donc, ben, nous, dans nos petites provinces, on va encore mettre la main à la poche.
C'est-à-dire que les voyages présidentiels coûtent très cher, vous comprenez
enfin... ça, Joker.
Merci.
Non, mais on essaie d'avoir toujours des budgets... des budgets dynamiques parce que le monde économique compte aussi sur les collectivités, compte beaucoup sur les collectivités pour continuer à travailler.
Je vais faire un aparté, c'est pas prévu sur le conducteur de Gérard, alors il va me gronder. Depuis qu'on s'est plus vu, M. Bourlin, le tourisme, alors vous avez quelques pulsations pour cette saison d'été sur le Var, qu'est-ce que ça va faire un peu?
Bon, écoutez, déjà rien que pour mon cœur, les pulsations, il faut qu'elles soient permanentes, donc elles existent. Alors, juste vous dire qu'on a eu en fait un excellent en fait début de printemps dans le département du Var. On a continué donc à avoir une croissance et bénéficier justement de destinations qui sont moins aujourd'hui en fait choisies, comme l'Île-de-France, malheureusement par rapport aux événements que vous connaissez, et surtout la façade méditerranéenne sud en fait qui attire moins. Et en l'occurrence, donc le Var en général, mais notre moyen au Var en particulier, a su profiter d'une hausse de la fréquentation depuis ces dernières semaines.
Très bien.
Et ça annonce une belle saison.
Oui, c'était surtout pour donner un petit peu de baume au cœur aussi à nos commerçants et notre zone de Charleroi, parce que, comme vous nous l'aviez dit précédemment, les touristes qui vont sur le littoral ont plaisir à monter. Dites-moi, il manquerait pas un aérodrome et tout par ici, non, pour que... Non, il n'y a pas dit... Parce qu'on vient sur le Var par Toulon, c'est ça, et Toulourière.
Alors, on vient donc dans le Var... Déjà donc de manière autoroutière, parce qu'on a la chance d'être traversé par l'autoroute A8 et donc cette historique route départementale nationale 7, la
fameuse RN7.
Voilà, merci Charles. Donc à travers les aéroports, bah, écoutez, les personnes qui viennent dans le Var et en particulier donc sur notre territoire ici, Provence Verte, ce sont des personnes qui arrivent donc à l'aéroport de Marseille-Marignane.
Marseille-Marignane, d'accord. Tout à fait.
Et quand vous citez tout à l'heure la complémentarité avec le littoral, donc la semaine dernière, j'ai animé avec le Conservatoire du littoral, avec le maire de Grimaud, mon collègue Benedetto et moi-même, et l'ensemble de nos partenaires donc, professionnels du tourisme sur le littoral, justement donc, des tables rondes à Grimaud pour faire en sorte qu'on trouve une complémentarité et qui est donc pour nos touristes ce qu'on appelle un développement d'itinérance entre Haut Var et Moyen Var et littoral.
Oui, c'est toujours, ce sont des détails peut-être infimes comme ceci, mais c'est surtout pour donner, comme on dit, du baume au cœur à toute notre zone ici de Saint-Maximin et cette province verte de se dire il y a de moyens pour faire venir du monde, parce que souvent, il ne faut pas quand même bouchonner comme dire. Et là, vous avez trouvé encore des astuces. C'est très bien, M. Bourlin, nous en sommes fort aise. Pour l'heure, eh bien, maintenant, on revient un petit peu à l'argent. Qu'est-ce que c'est, cette émission ? Programme d'investissement, Madame le maire, avec un budget en ce moment. Ça investit, ça a des programmes, s'il y a des travaux, il y a des réactions, il y a des chemins communaux. Est-ce qu'ils sont bien entretenus ? Est-ce qu'on va avoir des totems directionnels ? Est-ce qu'il va y avoir. Oh, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui va se passer, madame? Expliquez-nous.
Mais vous savez tout?
Non. Je suis à la recherche, madame. Je suis un cherchant.
Alors, bien sûr, le projet de 2016, ça va être le début des travaux de la place Malherbe, bien entendu, mais il va y avoir les travaux de l'habitat dit Échauguette en centre-ville, le nouveau cimetière, la réfection, bien sûr, de la voirie communale. C'est très important parce que c'est le confort de l'usager, la sécurité de l'usager. Alors, quelquefois, on nous dit avec mépris, oui, sur vos budgets d'investissement, il y a de la voirie communale. Mais encore heureux qu'il y ait de la voirie communale.
Bien sûr.
C'est quand même la mission d'un élu de faire en sorte que ses usagers utilisent des voies complètement sécurisé et agréable. Alors bon, oui, nous faisons de la voirie communale et rurale. Puis la présidente Nathalie Goulu l'a dit, nous en sommes à finir les totems directionnels pour la signalétique en centre-ville. Ça fait partie de la phase 2 du FISAC. On continue les travaux sur la basilique. La phase 3, la restauration du flanc sud avec nos financeurs, puis d'autres travaux, hein, des travaux, une aire de covoiturage, ça c'est très important aussi, c'est très attendu l'aire de covoiturage pour les personnes qui vont travailler aujourd'hui, elle phagocyte un peu les parkings existants, c'est pas très, très agréable pour tout le monde, même pour eux. Aujourd'hui ils auront un site dédié, les gens ont un site dédié pour faire du covoiturage, et ça c'est vraiment dans l'air du temps et c'est important.
C'est une bonne chose. Par contre, il y a quelques jours le plaisir d'être au couvent donc, de Saint-Maximin pour d'autres activités. Je suis allé sur la basilique. Les orgues, où on en est là? On les enlève, on les relève, on les...
Alors, ben justement, ça fait plaisir que vous reveniez sur le sujet de la basilique parce qu'effectivement, il y a l'ensemble patrimonial, mais il y a l'intérieur, donc il y a tout le mobilier et les travaux intérieurs. Et nous avons un partenaire très, très présent. C'est l'Association des Amis de la Basilique qui font un travail depuis très longtemps sur l'entretien de ce très beau monument. Alors, je salue leur dévouement. Là, aujourd'hui, j'en profite et je le remercie pour le travail, pour l'aide financière qu'ils nous apportent.
Voilà, là aussi, s'il y a des opérations, et ça je le dis à Laurence au lieu... Laurence, ma fille, on écoute le patron des fois, hein, merci.
Excuse-moi.
Donc j'aimerais aussi que Radio Sainte-Baume s'associe un petit peu avec les amis de la Basilique. Non mais nous sommes là pour... très sérieux, pour
très
les
sérieux,
aider
toujours.
Et que peut-être qu'il y ait des appels aussi aux dons pour cette opération. C'est quand même, non, parce que de temps en temps, on critique, mais nous, on peut aussi s'autocritiquer, madame. C'est pour cela que c'est ça l'interactivité d'une radio jeune, dynamique, comme RSB, animée par l'un des plus jeunes animateurs de France. Merci.
Merci.
Donc, ma chère Laurence, vous notez ça, hein, et vous mettrez un peu en relation avec la présidente des Amis de la Basilique.
Mais
et si vous
sûr.
N'avez pas les contacts, vous savez qu'il y a une mairie toujours à votre disposition.
Toujours présent.
Merci. Pour donc la restauration du tableau, le retable, tout ça, tout est en marche, quoi.
Oui, alors il y a un travail qui est fait par mon adjointe au patrimoine, Mireille Boeuf, un travail très, très actif. Et bien sûr, il y a la restauration du chœur, la mise en valeur de la crypte, mais il y a aussi les restaurations de tableaux, les restaurations de mobilier à l'intérieur de sa basilique. Cette basilique, elle travaille avec la DRAC. Nous travaillons avec la DRAC pour avoir le plus de financement possible et que ce soit fait dans les règles de l'art, bien entendu.
Et bien sûr, l'art royal ici même, à Saint-Maximin, est toujours reconnu. Et là, ça fait plaisir à M. Bourlin, parce qu'il se dit, là, les touristes vont après revenir voir un petit peu nos joyaux, et on augmentera bien sûr le taux de fréquentation. En attendant, pour les fréquentations, nous aurons aussi une date aussi importante, c'est le 23 et 24 avril. Madame, je crois que là, Saint-Maximin va se parer.
C'est mon anniversaire, c'est ça ?
En plus, champagne.
Oui, alors à cette date-là, il y aura bien entendu les médiévales qui sont très attendues par toutes les Saint-Maximinoises et tous les Saint-Maximinois. Alors rendez-vous pour ce grand événement, hein, qui est reconnu et qui rayonne bien largement au-delà de la Provence verte. Venez nombreux et puis nous passerons deux journées merveilleuses.
Alors avant de vous quitter, je sais Gérard, vous nous... mais les minutes ne comptent pas quand on est en si bonne compagnie. Là, c'est vraiment un petit appel. Pôle emploi, donc en ce moment, on voit quelques petits mots à leurs agences en disant que s'occuper plus de la formation que de l'emploi. Et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Parce que je crois qu'une femme comme dynamique comme vous, Madame le maire, je crois que l'emploi aussi vous est aussi très particulièrement à cœur. Et je crois que aussi on pourrait peut-être faire quelque chose dans les jours à venir ou les semaines à venir en relation avec la dynamique direction de Radio Sainte-Baume, bien sûr, sur l'emploi ou pourquoi pas sur les zones d'activité. Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait, grâce à vous, un petit peu faire bouger les choses.
Alors, le gouvernement a choisi d'axer sa politique cette année sur la formation. Il était temps parce que... des hommes, des femmes et des hommes qui n'ont pas de formation ne peuvent pas trouver correctement leur place dans le monde professionnel. On a la chance, encore une fois, Saint-Maximin, d'avoir un pôle emploi avec une directrice et une équipe, des équipes très, très, très motivées. Nous y étions récemment avec Sébastien Bourlin et Monsieur le sous-préfet pour inaugurer leurs nouveaux locaux. et fêter le premier anniversaire de l'équipe spécialement dédiée à l'entreprise. Et ça, c'est important. Ce jour-là, Madame Essartier, la directrice, nous a montré tous les outils qu'elle mettait à disposition du demandeur d'emploi et de l'entreprise pour avancer et progresser. La formation est un volet important. Et c'est vrai que ça serait intéressant de promouvoir cette institution qu'on a sur le territoire Saint-Maximinois et pour montrer, pour ouvrir encore plus ces portes-là aux demandeurs d'emploi. Alors pourquoi pas, oui, faire une émission, mais d'abord mettre tous les acteurs concernés autour de la table, la préparer. Et je pense que la directrice et ses équipes très, très dynamiques et motivées, on a pu l'apprécier. Hein. On a été vraiment, bon, moi je le savais, Sébastien aussi, mais on a encore été agréablement surpris par la qualité du travail, du service rendu pour ce territoire. Donc oui, c'est une option à garder et je vous remercie d'avoir eu cette idée de permettre d'en parler aujourd'hui à l'antenne.
Et madame, les idées viennent aussi avec des partenaires aussi dynamiques qui font fusionner aussi le bien-vivre et l'esprit d'une bonne qualité de vie en direct de cette belle métropole, on pourrait dire métropole de Saint-Maximin, car l'avenir est avec vous et je pense que la communauté des communes prendra encore beaucoup plus d'expansion et surtout de qualité et d'autorité dans votre département et pourquoi pas sur le plan national, et je vous le souhaite. Nous allons rappeler bien sûr que Nathalie Goulu nous a dit que le 7 mai, nous allons défiler avec de la fashion couture, de la beauté.
Oui, je ne vais pas le rater, ça.
Voilà, moi non plus, j'y serai. Et n'oublions pas aussi que le 23 et 24 avril, la foire médiévale est un point d'orgue important car beaucoup d'associations régionales, locales et nationales viennent ici nous présenter la tradition, l'histoire et aussi le bien fondé des travaux de nos anciens et de nos futurs et de nos élus. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une émission ô combien sympathique, placée sous le signe d'une information importante. Un grand merci à Madame le maire qui, malgré son agenda très pris, est venue vers nous.
Merci
à Monsieur Sébastien Bourlin qui, lui, il faut le dire, est le grand crapahuteur bourlinguin et bourlingueur du Var, je vous le rappelle. Ça y est, c'est dit, c'est fait. 100 000 km par an dans un seul département, il faut le dire. Je me demande quand est-ce qu'il a le temps de passer par chez lui. Mais en attendant...
Déjà, je passe par chez vous, Jean-Marc, et c'est un plaisir tout le temps.
Mais comme je sais qu'avec la high-tech, vous êtes toujours en relation connecté avec votre belle mairie de Pourrières, oui. Pourrières qui est quand même aussi, avec ses avenues et ses Champs-Élysées, un moment aussi sympathique pour
très,
passer.
Un très, très joli village provençal.
Voilà, aussi, il faut aller faire des photos. Oui. Écoutez, madame, très respectueusement, bonne journée, bonne semaine, bonne continuation, monsieur Bourlin. Mes respectueuses salutations, monsieur Gérard, tous mes compliments sur la talentueuse prose que vous nous avez posée. Et saluons bien sûr Nathalie, Virginie, Laurence et bien sûr Pétulia, bien sûr une équipe dynamique. Vous savez que Radio Sainte-Baume s'augmente, il y a les employés, on n'arrête plus que ça.
Il y avait Martine aussi. Sans oublier Paul.
Et Paul, voilà. Et voilà. Virginie, merci.
Merci à Radio Sainte-Baume de nous recevoir. Merci beaucoup.
Merci Madame le maire.
Merci.
Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dimanche à partir de 20h. Donc merci Madame le maire, merci Sébastien Bourlin, maire de Pourrières. Merci beaucoup. Et puis donc, comme je vous le disais, rediffusion dimanche à 20h. La musique, on va faire un petit plaisir à Monsieur le maire de Pourrières, Sébastien Bourlin, qui aime beaucoup Lucas Graham. On l'écoute tout de suite.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me.
So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Radio Sainte-Baume 88.9.